minutes 30.
Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur.
Mais t'es dit, je vais lui faire bouffer son journal.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de C'est quoi l'actu, l'émission qui revient sur les sorties cinéma du moment. Au programme aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, Civil War d'Alex Garland, puis nous vous réservons quelques petites friandises en bref avant de conclure sur notre section patrimoine, où nous reviendrons sur Rouge de Stanley Kwan dans le cadre de sa ressortie en salle. Je suis Vincent, et pour m'accompagner, j'ai deux acolytes de qualité. On commence par Monsieur William. Comment vas-tu, Will ?
Ça va très bien, on parle bon cinéma et surtout on parle excellent cinéma asiatique.
Ça me ravit toujours. Et enfin, on le retrouve après une petite pause. Comment vas-tu, mon cher Louis ?
Mais fort bien, ma foi, fort bien. Ravi d'être ici. Triste de ne pas avoir été avec vous pour parler de ce film fou qu'est Ferrari, mais ravi d'être ici pour vous parler de plein de bons films et un petit pas très très bien.
Alors, pour débuter bien comme il faut cette émission, on part faire un petit tour du côté du Japon avec Le mal n'existe pas, le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, après Drive My Car et Contes du hasard et autres fantaisies. Alors, Le mal n'existe pas, c'est l'histoire de Takumi et sa fille Anna qui vivent dans le village de Mizubiki près de Tokyo. Et le projet de construction d'un camping glamour, glamping, comme il se prête à l'appeler, dans le parc naturel voisin, destiné aux touristes citadins, risque de mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Alors Will, je sais que, comme moi, tu es un admirateur du travail récent de Hamaguchi, et j'aimerais que tu expliques selon toi quelles sont les récurrences de son cinéma dans ce film, et peut-être les différences que tu observes.
Écoute, j'étais particulièrement friand, comme tu le disais, de Drive My Car et de Contes du hasard et autres fantaisies. Les deux seuls films que j'ai vus de Hamaguchi. Et celui-ci, il est un peu plus hybride, si on peut dire, parce que ça part d'une démarche musicale où Hamaguchi devait mettre des images sur la composition donc de la compositrice, justement, qui avait fait la musique de Drive My Car.
Eiko Ishibashi, tout à fait.
Sublime bande son, d'ailleurs, important à préciser.
Totalement, vraiment magnifique. Et en fait, on retrouve, je dirais, le côté très dialogué des deux films que j'ai cités, et j'imagine dans tout son cinéma qui est quand même beaucoup axé aussi sur des rencontres un peu parfois inattendues, des choses du quotidien qui se révèlent. Plus ces films progressent, en fait, des détails sur la vie de ces personnages-là. Et ce film, donc Le mal n'existe pas, on retrouve aussi cette science, je dirais, du dialogue et du rythme, en fait, avec des personnages qui se recherchent, qui, dans la mise en scène aussi, sont toujours filmés simplement. On peut penser à Eric Rohmer, mais en fait, il y a cette même manière de rendre, en fait, la chose la plus simple, dénuée en fait de forcément lui donner un caractère utilitariste. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est, on filme ces gens de la façon la plus simple pour leur donner vraiment cher. Et on retrouve ça, du coup, dans Le mal n'existe pas. Mais à côté de ça, il y a tout un travail de tension, en fait, dramatique et de mystique, si on peut dire, qui est vraiment renforcé, en fait, par la mise en scène ici, qui par moments s'éloigne un peu de ses personnages et nous donne en fait un point de vue beaucoup plus large, en fait, sur l'environnement, sur ces personnages qui roulent en voiture. Et bon, sans trop spoiler le film, voilà, il y a ces deux aspects du film, dialogués et un peu plus mystiques, qui vont finir par se rejoindre.
Exactement. Et Louis, alors toi qui découvres depuis très récemment le cinéma d'Amaguchi, je voulais savoir comment tu avais un peu réceptionné ce film et si son aspect un peu hybride, parce que c'est vrai que d'habitude ces films sont très très dialogués, celui-là l'est un peu moins quand même. Il y a beaucoup de phases plus, enfin silencieuses en tout cas musicales. Voilà, si tu avais pas été trop décontenancé par la proposition un peu plus silencieuse, contemplative, on va dire, du film.
Bien sûr. Alors, pour le coup, comme l'a précisé Vince en l'introduisant, moi, Yamaguchi, c'est un cinéaste que je connais depuis très récemment, pour la simple et bonne raison que j'étais pas allé voir en salle ses deux films précédents, que j'ai donc rattrapé pour le bien de cette émission. Voilà, vous aurez noté mon investissement. Drive My Car, c'est un film que je trouve assez magnifique dans son écriture et dans surtout la simplicité de sa mise en scène, et qu'il arrive, je trouve, avec en réalité une mise en scène très complexe, mais avec à la fois une certaine simplicité, arriver à dégager des choses très fortes, et notamment par un texte que je trouve absolument sublime. Et Conte du hasard avait vraiment été quelque chose, un film où je suis complètement resté en dehors. C'est malgré l'aspect romérien qui est normalement censé beaucoup me parler, et comme je suis vraiment un très très grand fan de Romère, c'est un tempo qui m'avait absolument pas touché. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est un film qui a, donc, Le mal n'existe pas. Titre magnifique d'ailleurs, je tiens quand même à le souligner. Je trouve que c'est surtout une histoire de tempo, en fait. C'est un film qui me désarçonne pas mal. C'est un film qui un peu met à mal mon appareil critique pour en fait la raison qui fait que ce qui m'intéresse dans le film, c'est ce qu'il fait avec le tempo. Comme vous l'avez dit, c'est un film qui est parfois, enfin souvent, très peu bavard, qui prend beaucoup le temps dans ses plans. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est la façon dont il s'éloigne de la ville pour en fait aller filmer ailleurs, parce que du peu que j'ai vu, c'est quand même un cinéma assez urbain. Drive My Car et Conte du hasard, c'est quand même, ça se passe à Tokyo. C'est des histoires très rattachées à la ville. Et là, j'aime bien qu'il s'éloigne de la ville et qu'il aille filmer l'ailleurs, autre chose. Et il comprend en fait que c'est avant tout une histoire de tempo et que c'est pas la même façon de parler, de débiter des paroles. Déjà, ce qui fait que c'est un film sur le tempo qui est drastiquement différent que ces deux propositions principales.
Ouais, la nature a un autre rythme, en fait.
Complètement, complètement. Et ça, on le ressent. Je trouve que d'ailleurs, le plan d'introduction est une très bonne entrée en matière. Ce traveling avec vue sur le ciel, où on est depuis la cime des arbres, et qui en fait fait office d'introduction, en fait, d'entrée en matière, quoi.
Parce qu'après, ça peut faire un peu prologue aussi, qui se fait répondre en fait avec l'épilogue, sans spoiler. Mais voilà, il y a un lien qui se fait entre le travelling introductif et...
Ah, complètement.
Ouais, moi je le prends comme ça, un petit peu comme un espèce de prologue, une entrée en matière pour dire voilà, bienvenue dans la nature, et quelque part de regarder vers le haut, vers la cime de ces arbres qui semblent immenses, ça rappelle un petit peu le côté on est humain et on est tout petit par rapport à la nature, quoi.
Complètement. Mais moi, ce qui en revanche me désarçonne pas mal, et que j'ai du mal en fait vraiment à saisir, c'est que déjà il y a un titre très fort, comme on l'a dit précédemment, Le mal n'existe pas, et que j'ai sans cesse l'impression qu'il essaie un petit peu de gratouiller la surface de cette notion de la nature est plus grand que nous, on n'est rien sans la nature et on sait qu'on ne pourra pas la contrôler. Certains essaient de la contrôler, à savoir installer un camp de glamping, comme ils disent, un mélange entre glamour et camping. Mais je trouve qu'en fait, c'est jamais vraiment incarné, et je pense que c'est purement de la mise en scène et c'est ses intentions. Mais j'ai du mal à saisir ce qu'il arrive vraiment à nous dire de la nature, à part que, certes, la nature est plus grande que nous. Ça, je pense pas que c'est Yamaguchi qui me l'apprend, tu vois. Et c'est pour ça que le film me bouscule un petit peu, et j'ai du mal vraiment à le prendre par un bout de la lorgnette, tu vois, bon, pour le dire un petit peu vulgairement, quoi.
Pour te répondre, en fait, avec le recul, en fait, plus je repense au film, et plus je me dis que la démarche dans laquelle Yamaguchi, du moins, fait avancer son intrigue et ses personnages, notamment, justement, cet enjeu écologique, la préservation des ressources vitales, donc ici aussi de l'eau de source pour ces gens. En fait, je le vois limite comme quelque part une sorte de long métrage préventif. En fait, c'est un peu comme ces mesures de prévention qu'on prendrait pour l'environnement, c'est-à-dire que le risque, il s'est pas encore manifesté. le mal ne s'est pas encore manifesté, il n'existe pas encore. Mais du coup, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour le prévenir? Est-ce qu'il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui est capable de pouvoir occasionner justement ce risque qui pourrait nuire à la santé de ces gens-là? Et ouais, je pense que c'est plutôt un film comme ça, et c'est pour ça que ça désarçonne, c'est que en fait on nous présente une situation de risque qui n'arrive jamais, comme on nous présente aussi, tu vois, des personnages en plein milieu du film qui viennent de Tokyo et dont on connaît pas vraiment l'issue non plus à la fin du film.
Alors moi je suis assez d'accord avec toi, Will, sur le message écologique un peu préventif. Il y a un côté un peu mise en garde, mais je pense, tu vois, pour revenir au titre, Le mal n'existe pas, qui est quand même un titre assez philosophique, hein. Je pense qu'en fait ça veut tout simplement dire que dans la nature, il y a une violence qui existe. Voilà, la nature peut être cruelle. Mais la notion de bien et de mal n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, la violence s'opère de manière instinctive et totalement non manichéenne. Et je pense que c'est quelque part une clé de lecture de bien des instants du film, et en particulier la fin. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que il y a un énorme jeu de rupture, en fait, dans le film, de dissonance, de choses qui s'opposent. Bon, évidemment, il y a l'opposition évidente entre la nature et la ville, mais même dans sa mise en scène, en fait, il y a des éléments un peu qui viennent rompre un espèce d'équilibre. Je pense à quelques inserts un peu disruptifs. Par exemple, quand il est dans sa maison avec sa fille, et tout d'un coup, on a un petit insert vraiment très furtif d'un portrait de famille où on voit que la mère est présente et avec eux, avec Takumi et sa fille, et on suppose du coup qu'elle est décédée, et donc il y a un deuil qui plane encore sur cette cellule familiale, sans que ce soit vraiment abordé dans le film, mais c'est un paramètre, je trouve, à prendre en compte comme ça. Je pense aussi à cet insert de la notification Tinder là dans la voiture, où en fait on a un plan, il me semble que le plan est fixe, on est à l'arrière de la voiture et on a les deux, donc à l'avant, qui discutent, et tout à coup la Mayuzumi, donc la jeune femme, se met à rire parce qu'elle voit la notification Tinder sur le téléphone du gars qui sert de GPS, et en fait voilà, cet insert sur cette notification, enfin sur le téléphone, vient rompre le plan pour nous donner une information supplémentaire sur la vie de ce type qui est un peu misérable. Le mec se cherche un peu. Et ouais, il y a plein de choses. Les ruptures avec la musique aussi, on a parlé du plan introductif qui est musical, sur la cime des arbres, et qui dure peut-être 3-4 minutes, et tout à coup, paf, ça coupe, la musique s'arrête aussi, et on a un plan sur la petite fille. Il y a beaucoup de plans musicaux qui s'arrêtent brutalement comme ça. Quand ils sont en train de ramasser l'eau pour amener à la restauratrice, tout à coup, voilà, il y a des coups de feu qui viennent interrompre le silence naturel, on va dire. Et enfin, moi, la plus grosse rupture que je trouve la plus signifiante, en tout cas dans le film, c'est dans ce plan séquence qu'on a de Takumi qui coupe des rondins de bois. On en a déjà un au début où on observe juste sa routine normale, voilà, il débite son bois et il va le poser près de son chalet, en plan séquence également. Et là, c'est un autre plan un peu plus tard au milieu du film où on le voit faire, et en fait il est interrompu déjà par les deux citadins, donc qui étaient, parce qu'on n'a pas vraiment expliqué, mais c'est les deux citadins, donc Mayuzumi et Takahashi, qui viennent présenter le projet de glamping aux villageois, et ils reviennent voir Takumi pour lui demander des conseils, parce que ça a l'air d'être un peu l'homme à tout faire du village. Et donc ils arrivent, sauf qu'il est en pleine activité, voilà, de coupage, de découpage de bois. Et donc il leur dit, bah attendez que je finisse. Et donc là, on a ce plan très long où on observe pendant peut-être 2-3 minutes Takumi finir de découper son bois. Et à la fin, une fois qu'il a terminé, on a Takahashi, donc qui l'observait depuis tout ce temps avec une certaine fascination, qui lui demande de s'il peut essayer de couper une s'il peut essayer d'en couper une aussi. Alors bon, il se rate, puis après le conseil de Takumi, c'est voilà, après le conseil de Takumi, il y parvient. Mais en fait, cette scène, cette rupture là, cette irruption, voilà, de la ville, hein, littéralement dans le rythme de la nature, et ce rituel un petit peu de Takumi, qui en plus vient s'immiscer carrément dans l'activité elle-même, c'est-à-dire pas juste il l'interrompt lui. J'ai trouvé que c'était ultra signifiant et que c'était déjà un espèce de trigger sur ce qui va amener la fin, c'est-à-dire que là, la nature comprend que la ville s'immisce de manière un petit peu trop envahissante, on va dire, dans son environnement.
Ce que je trouve assez intéressant, même passionnant, c'est que en fait, plus le film déroule, et en fait, ce sont les séquences, peut-être celles qu'on attendait le moins, qui finissent par être les plus importantes. En fait, là, comme ça, tu vois, en parlant du personnage de Takumi qui coupe du bois, c'est vrai que ce sont des scènes qui durent assez longtemps, particulièrement celles, comme tu l'as dit, avec les citadins, mais typiquement sur une opposition très nette aussi, il y a la fameuse scène de réunion en fait entre les villageois et justement ces deux personnages, où là c'est complètement l'inverse en fait en termes de mise en scène et même d'un point de vue sonore, quoi. C'est-à-dire que il va vraiment parfois étendre des séquences qui n'ont rien à voir, je trouve, en termes de style et même de ton dramatique, parce que autant la scène qu'on évoquait avant, c'est quand même une scène très très drôle, autant l'autre, c'est littéralement l'inverse. Enfin, je veux dire, c'est la panique assurée dans le village. Et non, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant.
Ouais. En l'occurrence, moi, il y avait quelque chose qui m'a pas mal sauté aux yeux. Vraiment, en discutant avec vous, c'est vrai que c'est un film qui base toute sa mise en scène et son propos sur la notion de rupture. Ça, c'est un truc qui me vient en discutant avec vous. C'est pas quelque chose qui m'est forcément venu en sortant de la salle. Mais également, j'aime bien ce qu'a précisé William en débutant son analyse sur la notion presque de on est témoin d'une sorte de calme avant la tempête, quoi. Qu'on est témoin de quelque chose. Ce mal, il plane. On sait qu'on ne va pas y être confronté concrètement, mais c'est comme si cette fin, on va voir si on en parle véritablement ou non, c'était pas un peu le début de véritablement ce mal. Et j'aime beaucoup en fait cette façon qu'il a de sans cesse, pas forcément mettre en scène le spectacle, mais de dire on assiste à quelque chose avant une catastrophe, et ça, je trouve ça assez fort, la manière qu'il arrive à mettre ça en scène sans pour autant user de 40 000 artifices, quoi. Et ça, je trouve ça assez fort dans sa mise en scène.
Oui, c'est ça. Il y a une espèce de calme. Alors, c'est vrai qu'Amaguchi, il a toujours, je trouve, une espèce de délicatesse et de sérénité qui se dégage de sa mise en scène et même de son écriture. Mais là, tu parlais de la scène de réunion, donc entre les villageois et les deux donc citadins qui viennent présenter le projet de glamping, et cette scène, elle paraît tout à fait au début tu peux te dire que le programme a l'air un peu rébarbatif, tu vois, et eux ils déroulent un espèce de PowerPoint très bien marketé, etc. Et une fois qu'ils donnent la parole aux villageois, voilà, pour entendre leurs questions, leurs suggestions, la scène prend une autre tournure, et en fait, on pouvait s'attendre éventuellement à ce que les villageois se révoltent et commencent à gueuler tous et à insulter les citadins. Et en fait, non. Alors, il y en a un qui grogne un peu au premier rang, voilà, qui exprime un petit peu son mécontentement, mais il est très vite calmé par Takumi, qui juste pose la main sur son épaule calmement. Déjà, je trouve que ça, c'est un, enfin c'est un geste hyper intéressant, je trouve, pour caractériser le personnage de Takumi. Et donc ils vont tour à tour, donc il y a Takumi, le maire du village, et la gérante du restaurant de nouilles udon, qui vont s'exprimer voilà, chacun leur tour pour exprimer les choses qui ne vont pas dans ce projet, notamment à cause de la fosse septique et de l'évacuation des eaux usées, qui risque de compromettre la qualité de l'eau de source du village dont elle se sert d'ailleurs la restauratrice pour son restaurant. Et c'est vrai que cette discussion qui tourne quand même beaucoup autour d'une fosse septique, en fait, elle est passionnante, je trouve. Elle est passionnante et elle témoigne d'un conflit, mais d'un conflit un peu sourd. C'est-à-dire que il y a une tension qui est là, mais elle est pas frontale. C'est-à-dire que les villageois réagissent avec un calme, mais prodigieux, je trouve, face à ces deux citadins qui n'y comprennent rien à rien, et qui, d'ailleurs, les deux, c'est assez intéressant parce qu'ils se rendent compte au fur et à mesure de la discussion que de l'inanité du projet, de toutes les choses qui vont pas, mais ils sont obligés un petit peu de garder la face devant eux.
La scène, moi, je trouve, elle est, comme tu l'as dit, d'un calme assez remarquable, mais elle en devient d'autant plus glaçant lorsqu'on sait que la scène suivante, c'est la présentation au patron de ce glamping, enfin, au chef d'entreprise de ce glamping, la présentation des retours et des reproches des villageois, et que concrètement, ils les ignorent complètement. Et là, il y a une sorte de recul où on grince des dents, quoi, parce que la scène devient juste glaçante et il y a une espèce de mépris de classe qui est terrible, quoi.
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que les deux, donc, qui présentent leur projet, ils comprennent que, oulala, il y a des choses à revoir et qu'il faut absolument les régler, parce que sinon ça va causer de gros problèmes avec les villageois plus tard. Et on a à nouveau cet effet de rupture où on passe du village, donc environnement naturel, à la ville, tout à coup, à cette réunion où on a en plus le boss qui est même pas présent. Il est en FaceTime dans sa bagnole.
Ah, il est complètement absurde, ce personnage, hein. Vraiment, c'est un cliché, quoi.
Ah oui, c'est un cliché sur pattes. Mais voilà, rupture brutale, voilà, hop. Ville moderne, technologie, etc. Enfin, la relation humaine est totalement absente. Et le mec de sa bagnole, comme ça, en FaceTime, il prend absolument aucune considération envers les villageois. Il dit juste, bon, bah, on verra pour déplacer la fosse septique, mais le reste, voilà, débrouillez-vous. S'il y a besoin d'un gardien, demandez à Takumi. En mode Takumi, il a pas d'autre chose à faire, quoi.
Je sais pas vous d'ailleurs, mais la salle, moi, a éclaté de rire quand il leur rentre dedans en mode mais vous me prenez pour un branleur ou quoi, ça a très peu ri, mais là honnêtement toute la salle a pété de rire, c'était très drôle.
Je crois qu'il dit exactement vous croyez que je glande.
Ouais, vous croyez que je glande, ouais. Ouais, franchement c'était très drôle.
C'est ça, c'est vraiment rigolo. Et cette scène, ouais, c'est vrai. Enfin, tu te dis mais ok, on est face à un capitalisme totalement déconnecté, voilà, de complètement hors sol, qui va reculer devant rien, voilà, pour faire ces 4 sous.
Mais tu vois, en fait, ce que je trouve limite intéressant, c'est que tout de suite le réflexe, en fait, qu'ont les deux, c'est pas les deux employés, mais du coup les deux sous-agents censés représenter la société pour le projet, en fait, ils se défendent face aux villageois en disant que ça va permettre de renforcer l'attrait touristique de la région, etc. Et en fait, le type, du coup, le chef du projet, il me semble qu'il leur dit exactement la même chose, comme quoi il faut absolument que les deux répètent ces choses-là. Bah, c'est ça, en fait, c'est un discours préétabli, et tu comprends d'autant plus la réaction des deux qui, en fait, changent, je trouve, vraiment de regard et d'expression de visage à la fin de la réunion, et qui admettent eux-mêmes qu'en fait... ils n'ont absolument pas connaissance de ce qui se passe dans le village, mais que il faut faire ce projet. Ils savent pas pourquoi il faut le faire, mais il faut le faire.
Oui, et en plus, ce qui prouve qu'ils sont d'autant plus perdus, c'est qu'on en apprend un peu plus d'eux dans cette conversation dans la voiture quand ils retournent au village, c'est que elle, Si je dis pas de bêtises, elle était quoi? Elle était infirmière ou sage-femme, un truc comme ça. Voilà. Et lui, il était acteur et agent d'acteur. Et il s'est retrouvé là dans le marketing totalement par hasard, quoi. Donc enfin, on comprend un peu l'absurdité du truc. Et pourtant, c'est traité avec légèreté, avec humour, hein, sur ce point-là. Mais mine de rien, bah ça reste quand même une menace. Qui gronde sur ce village et cet environnement naturel et qui risque de menacer quand même grandement l'équilibre dont parle le maire d'ailleurs.
Aussi les gars, je voulais peut-être avoir votre avis parce que en fait avec le recul, ce que j'apprécie beaucoup également, c'est toutes les petites scènes en fait où on suit la petite fille de Takumi justement qui déambule dans la nature et qui d'ailleurs dans une scène il me semble caresse des vaches si je me trompe pas, ou alors il me semble que c'est ça. Et ouais, en fait j'ai trouvé que même si le personnage ne parlait pas, il y a vraiment cette douceur et ce côté très apaisant qui se dégage dès qu'elle est à l'écran.
Ça représente encore plus, je trouve, la pureté de cet environnement là, c'est-à-dire qu'elle est encore plus innocente, on va dire, dans l'affaire que les adultes même du village. Et on la voit beaucoup effectivement se balader dans la nature, c'est-à-dire que à plusieurs reprises Takumi déjà doit la chercher après l'école et il l'oublie et donc il arrive en retard, sauf qu'elle est déjà partie sans lui. Alors il faut savoir que c'est pas anodin, hein, ce genre de truc, parce que les gamins au Japon, même à 5 ans, ils peuvent aller venir depuis chez eux et jusqu'à l'école tout seul, hein.
C'est vrai qu'apparemment c'est super peu craignos le Japon. Alors même sur les vols et tout, apparemment ils sont méga respectueux sur ça. Tu peux laisser ton vélo dans la rue à l'aise.
Oui absolument. Et donc enfin c'est pas anodin que la fille se dise bon bah il est en retard, du coup bah je vais rentrer toute seule. Et Takumi doit à chaque fois après la chercher quelque part dans la nature parce que bah elle fait sa petite balade tranquillou. Et on a ce plan magnifique, je trouve, ce long travelling où Takumi marche dans la forêt. Et alors je sais plus si sur ce même plan on voit au loin Anna, ou si juste il y a la transition entre les deux où Takumi passe derrière un espèce de talus. Donc il sort de notre champ de vision et on le récupère direct après. Il a Anna sur son dos. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette transition absolument merveilleuse et qui cimente un peu plus le film à la lisière du fantastique. Il y entre jamais vraiment, mais il y a des éléments quand même un petit peu mystérieux et qui sont pas mal cristallisés par cette petite fille. On va peut-être passer un coup sur la fin. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter avant ça.
En vrai, ce que j'aurais peut-être dit, c'est tout le jeu sur la lumière. Et justement, là, on va y venir sur la fin du film, mais les contrastes très très forts en fait en termes de luminosité sur la fameuse, enfin sur la grande scène de nuit et tout le reste du film qui est tellement prononcé où littéralement à l'écran tu sais que il va se passer quelque chose, quoi. C'est quand même tellement présent à l'écran, cette noirceur, que il peut que se passer quelque chose de tragique.
Ouais, t'as tout à fait raison. C'est vrai que le film est quand même très lumineux, hein, pour la grande majorité. Et à partir du moment donc où on a cette disparition d'Anna après l'école, là on entre dans des scènes de nuit où il fait extrêmement sombre. Et il y a des contrastes de lumière absolument sidérants. Moi, je pense au plan sur le balcon du chalet de Takumi, où on voit Mayuzumi de dos. Et il y a une espèce de brume de fumée là qui enveloppe qui envahit le cadre. Et avec la lumière crépusculaire au loin, c'est absolument magnifique. Bon bah on embraye tout de suite sur la fin, du coup voilà, si chers spectateurs, si vous voulez pas qu'on vous gâche la fin, allez voir le film et revenez écouter, on va passer 5 minutes dessus je pense au moins. Voilà, c'est vraiment la partie décryptage où là on est un peu obligé malheureusement. Si l'un de vous veut se lancer déjà dans la description de la scène et peut-être partir sur l'interprétation qu'il en a ou pas.
Bon, si tu veux, je peux entamer sur la description de la scène. En fait, ça part du point de vue de Takumi qui observe trois cerfs concrètement, et il y en a un sur les trois qui est blessé. On imagine s'est pris potentiellement une balle.
Ouais, parce qu'on entend des coups de feu et on nous dit que c'est en rapport avec la chasse aux cerfs.
Totalement. Donc instinctivement, nous spectateurs, on pense à ça. Puis il me semble qu'après on revient sur les trois personnages principaux du film. Et ensuite, on voit que la petite fille, donc Anna, a pris la place du cerf blessé. Et à partir de là, on se pose la question, est-ce que Anna va mourir? Est-ce que ce sont les cerfs qui l'ont blessé? Parce qu'on nous raconte, enfin plutôt Takumi raconte dans la voiture aussi une petite légende, en fait, avec le cerf sauvage qui, apeurait, en fait, aurait le réflexe de protéger son enfant. Et la scène d'après.
C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il parle au début du fait que le site de glamping est situé sur le trajet des cerfs. Et donc, les deux, Mayuzumi et Takahashi, s'interrogent sur, voilà, ils demandent s'ils sont dangereux pour l'homme. Et Takumi dit que non, pas du tout, ils sont inoffensifs, mais il peut y arriver que, s'ils sentent qu'ils doivent protéger leur enfant, ou s'ils sont blessés, etc., ils peuvent avoir une réaction instinctive violente, mais seulement dans ce cas précis. Et effectivement, quand on retrouve la petite Anna après qu'elle est disparue et que tout le village s'est mis à la chercher, on a donc Takumi et Takahashi qui la voit, voilà, près de cerfs dont un est blessé. Donc la situation est extrêmement délicate parce qu'il faut pas effrayer les cerfs de peur que qui blesse la petite fille. Et là, Takumi a une réaction pour le moins surprenante, parce que Takahashi commence à s'avancer vers Anna et les cerfs, et Takumi l'en empêche en le saisissant violemment par le cou et commence à l'étrangler. Jusqu'à l'étouffer. Alors il meurt pas tout de suite, mais suite à ça, donc une fois qu'il l'a étouffé, il se lève, et là les cerfs ont disparu et Anna se retrouve étendue sur le sol avec du sang qui coule de son nez. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, on suppose qu'elle a été blessée par les cerfs pendant l'intervalle de temps pendant que Takumi étouffait Takahashi. Mais c'est très très surprenant parce que il semblait bien s'entendre, en fait, jusque-là, les deux. Et voilà, cette réaction violente est totalement inattendue. Donc, je sais pas, comment vous l'avez reçu, en fait, ce moment? Parce que moi, ça m'a fait fondre mon cerveau, hein, sur le coup.
Tu vois, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, avant cette rupture où, Takumi décide d'agresser l'autre personnage, il me semble que, en fait, il y a ce plan, tu sais, sur le point d'eau, où on voit un peu en reflet les personnages. Et en fait, j'ai comme l'impression que l'espace d'un plan, il voulait nous rappeler l'échelle quelque part d'égalité entre tous ces personnages qui se font écraser, en fait, par la grandeur, je dirais, de l'environnement qui les dépasse. Et en fait, cette pression. Derrière Takumi, quelque part, le projette instinctivement, naturellement vers la violence, parce que voilà, il a vu sa fille blessée, et ouais, il réagit de façon inattendue. Mais après, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une explication pour ça? C'est là où le film nous pose la question, c'est qu'en fait, quelque part, ce personnage, on le connaît, et on le connaît pas vraiment à la fois.
Ouais, il reste assez opaque, hein, finalement, ce Takumi. Et je vais te donner la parole après, Louis, mais c'est là où on en revient à ce titre, Le mal n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est dans la nature, qu'on rentre vraiment dans le monde naturel et qu'on adopte ses lois, en fait, on peut plus réfléchir rationnellement en termes de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal de faire ou non. Et je pense que Takumi, il a la même réaction instinctive, en fait, que le cerf. C'est-à-dire que immédiatement, en fait, il veut protéger son enfant. C'est-à-dire qu'il pense probablement que si Takahashi s'avance trop, eh ben, il peut, voilà, causer un accident entre sa fille et les serfs. Donc, c'est sa réaction est de le retenir et de. Bon, après, c'est un peu extrême hein, de l'étouffer, hein, peut-être, mais.
Ouais, c'est pour ça que moi, j'étais complètement perdu dans la scène. La violence du truc, je me suis dit en mode bon. On lui mettre une main sur sa poitrine pour lui dire de pas avancer, quoi. Mais bon, l'étouffer, j'ai pas trop capté, moi.
Mais je pense qu'il y a cette réaction instinctive-là. Et aussi, mon interprétation, je dirais que Takumi, effectivement, comme c'est un personnage un petit peu mystérieux, qu'il incarne, peut-être en fait qu'il incarne le gardien de cet environnement naturel, mais peut-être à un niveau spirituel, voilà, qui nous dépasse. Comme on voit que le film est quand même pas mal à la lisière du fantastique, enfin, ça me paraît pas déconnant d'imaginer ça, et que peut-être le fait de tuer Takahashi, peut-être que ça mettra un vrai coup d'arrêt au projet de glamping qui aurait probablement initialement reculé devant absolument rien, peu importe les plaintes des villageois, quoi. Et donc peut-être que c'est un geste de protection à la fois envers par rapport à sa fille et à la fois par rapport à la nature qu'il souhaite protéger. Et à mon sens, après, donc Takahashi vient récupérer, il prend dans ses bras le corps de sa fille qui est inanimée. Alors d'ailleurs, on sait pas vraiment si elle est morte ou pas, mais on peut le supposer. Et il s'éloigne avec elle dans les bras et il disparaît dans le fond du plan dans la forêt et on le revoit plus du tout. Et c'est pour ça que je pense que Takumi, en fait, il a embrassé voilà le côté surnaturel de cet environnement et c'est un peu ça qui s'est passé. Après, c'est mon interprétation, peut-être que je pars loin, mais je pense en tout cas qu'il n'y a pas de vraie explication terre à terre à ce qui s'est passé, quoi.
En l'occurrence, moi, pareil, j'ai eu pas mal de mal à interpréter cette fin, d'autant qu'elle est très abrupte, là où vraiment, c'est un film qui, comme on l'a dit, a un ton, alors, qui est loin d'être léger, mais qui a globalement un rythme assez lent et qui prend pas mal son temps et qui est assez contemplatif, et où toute la violence, elle est globalement suggérée, enfin, elle est purement dans les paroles. Là, un acte d'une telle violence qui vient vraiment éclater dans la fin, moi, c'est un truc qui m'a complètement bousculé. Mais c'est vrai que pour le coup, je m'étais pas forcément fait la réflexion. Moi, pour moi, je l'interprète pas du tout comme un film fantastique. Clairement, je vois ce que tu veux dire, Vince, mais je ne le reçois pas du tout de la sorte, le film. En revanche, le côté « je suis le gardien de ce calme rural et tu es possiblement celui qui va venir interrompre ce calme, alors je dois forcément me débarrasser de toi », dans... la disposition de la scène, c'est que c'est une interprétation qui me paraît loin d'être déconnante, clairement, et qui je trouve conclut le film d'une façon certes très abrupte, mais cohérente, quoi. Franchement, je m'étais pas forcément fait la réflexion, mais je suis plutôt très d'accord avec ton interprétation.
Au plus j'ai réfléchi, au plus je trouve que le film a un petit peu un aspect de conte fantastique. Presque pour enfants, mais je me visualise en fait gamin en train de lire peut-être un conte que ce soit en roman ou en bande dessinée, mais d'une histoire comme ça, voilà, de
un conte sur une fosse sceptique tout de même, hein.
Alors pas forcément sur la fosse sceptique, mais où un village se trouve menacé par le capitalisme, là, et une certaine modernisation, et on a un père et sa fille qui vivent paisiblement, et puis tout à coup il y a cette fin un peu surnaturelle avec des cerfs et le père disjoncte, enfin il y a un aspect où je me dis en fait si j'avais lu peut-être cette histoire voilà sous forme de conte quand j'étais gamin, en fait ça m'aurait peut-être pas autant choqué cette fin que là maintenant en tant qu'adulte et de voir ça comme ça au cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez.
Non, mais je pense que t'as raison. En fait, il y a ce côté élément de résolution. Justement, c'est vrai qu'on parlait de cycle et de rupture. Là, c'est à la fois un élément de résolution, le point de convergence en fait entre ces trois mondes, un peu comme on peut avoir. Là, je vais prendre l'exemple du petit chaperon rouge, mais le moment où le loup décide d'aller revoir le petit chaperon rouge parce qu'il sait que c'est à ce moment-là qu'il doit aller absolument la dévorer. Bah là, il y a un peu ce côté-là aussi, comme quoi c'était quelque chose qui était retenu pendant tout le film, mais qui devait à un moment donné exploser.
C'est ça, c'était sous-jacent et ça explose tout à coup. C'est un peu comme ça que je le vois. En fait, plus j'y pense, plus je me dis, mais en fait, enfin, c'est pas si abrupt. Enfin, c'est abrupt dans l'exécution, mais ça sort pas de nulle part, quoi. Et puis il y a cette notion d'équilibre dont parlait le maire, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, il explique que les villageois, ils se sont quasiment tous des étrangers, hein, qui sont pas forcément natifs de cet endroit-là, mais ils ont appris à composer avec ces éléments naturels et à former un espèce d'équilibre, voilà, entre leurs activités et la nature. Et peut-être que cet équilibre, à la fin, il est nécessaire que voilà, un sacrifice humain du côté de la ville pour retrouver un équilibre, puisqu'il y a eu une mort du côté du village, quoi.
Mais tu vois, c'est là où je pense pas que Hamaguchi, à mon sens, il fait pas un film forcément pessimiste sur l'état de l'écologie, sur ce qui est possible aussi pour sauver l'environnement et sur la nature humaine même, parce que bon, déjà il passerait pas son temps à humaniser les deux employés donc de cette agence qui se révèle de plus en plus attachant. Et ouais, même si voilà les deux personnages principaux disparaissent comme ça dans une atmosphère mystique et peut-être dans les ténèbres de la forêt, bah je pense pas, ouais, que ce soit un film forcément très très sombre, même à la toute fin du film. Je le vois vraiment comme tu l'as dit, une fable comme ça, avec un élément de résolution qui fait un peu mal, mais dont il y a une morale à en tirer, et c'est peut-être la morale le plus important.
Bon ben, on en a fini avec Le Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, donc qui est encore en salle actuellement. N'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez toujours pas fait. On va passer maintenant à Civil War, le nouveau film d'Alex Garland, qui semble à nouveau diviser le public et la critique. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on.
Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America?
We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best.
Alors, Civil War, ça parle de quoi? On se trouve dans un futur dystopique où les USA sont en pleine guerre civile, hein, d'où le titre, et un groupe de photojournalistes mené par Kirsten Dunst décide de traverser le pays jusqu'à la Maison Blanche pour interviewer le président avant sa mort imminente, ou en tout cas son assassinat. Alors je disais juste avant que le film semblait divisé dans sa réception, et c'est intéressant parce que la division est au cœur du sujet du film. Donc j'aimerais savoir, pour commencer, dans quel camp de la critique est-ce que tu te situes, Louis ?
Moi, j'ai plutôt beaucoup apprécié Civil War. Je tiens quand même à préciser que je suis allé à cette séance armé de fourches et de torches. Je m'attendais vraiment à haïr ce film au plus profond de mon être, pour la simple et bonne raison que je trouve qu'Alex Garland est au mieux un bon cinéaste, au pire au mieux un relativement bon scénariste, au pire un cinéaste absolument exécrable et que je déteste. Pour situer un tout petit peu, j'avais haï au plus profond de mon être Men. J'avais trouvé ça nul, vraiment nul à chier.
J'aime pas trop non plus, ouais. Désolé Margot, hein, qui adore, mais...
Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment bien Men ou pas?
Pas ici, du coup.
Ah ouais, non, mais franchement, c'est compliqué, Men, hein. Il fait mal, hein, par là où il passe. Hein. En l'occurrence, c'est un film que j'avais trouvé mais maladroit de bout en bout, qui en fait était constamment... qui se voulait sans cesse ambigu et qui arrivait très maladroitement à faire un film d'horreur en parlant de MeToo, mais de la pire des façons, et qui, une fois qu'il avait plus rien à dévoiler dans sa mise en scène ultra formaliste, se contentait juste d'un espèce de body horror qui arrivait comme un espèce de cheveu sur la soupe et qui était complètement hors propos. Ce qui fait, et en plus, même Civil War, c'est un film qui a été assez vite marketé, ce qui fait qu'il me semble qu'à la, dès la sortie de Men, on savait qu'Alex Garland bossait sur un nouveau film, on a eu assez vite le titre, et j'avais pas beaucoup aimé Annihilation non plus, donc je m'attendais à détester le film, et je trouve que c'est plutôt une très belle réussite, Civil War. Je trouve que le problème principal d'Alex Garland, c'est que ça reste avant tout un formaliste, un très grand formaliste, et qui se soucie principalement de son plan davantage que de la réalité politique dans laquelle s'insère son récit, et de par l'écriture de ses personnages, de par son récit en fait. C'est plus « Oh putain, t'as vu mon plan ou pas ? T'as vu comment il est pas mal là ?» Après, j'ai envie de vous dire, voilà, on se rince les yeux, c'est clairement un film qui a un sens du cadre, et même, tu vois, ça c'est quelque chose que je pouvais clairement pas enlever à Men, hein. Men, je trouvais que c'était un film qui était bancal de bout en bout, mais qui était plastiquement absolument superbe. Mais il y a plein de films que je trouve plastiquement superbes, c'est pas pour autant ça en fait des bons films. Coucou Only God Forgives, voilà, il y a plein de films plastiquement superbes, mais qui sont d'infâmes daubes. En revanche, je trouve que Civil War n'est pas un film exempt non plus de tout défaut. Moi, ce qui me déçoit principalement dans le film, c'est la proposition du titre n'est absolument pas respectée. Clairement, c'est un film qui use d'un fantasme de guerre totale qu'il y a aux États-Unis. En l'occurrence, nous, Civil War, c'est très connoté guerre civile, à savoir la guerre, voilà, entre deux factions dans un pays. Les États-Unis, c'est différent. Civil War, c'est quand même la guerre de sécession, ce qui fait que il s'inscrit quand même dans un héritage historique qui est quand même très grand en appelant son film de la sorte. Et je trouve qu'il parle absolument pas des États-Unis. C'est ça, en fait, qui me chagrine un petit peu avec le film, c'est que moi, j'aime énormément les satires sur les États-Unis. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je trouve que c'est un pays absolument passionnant dans sa dérision. Et là, je trouve qu'il nous raconte absolument rien sur son pays. C'est même pas son pays, d'ailleurs, je dis une erreur, excusez-moi, il est britannique, Alex Garland. Bon, après, il est aux États-Unis depuis plusieurs années, Alex Garland, mais quand même. Et je trouve qu'il ne raconte absolument rien du pays qu'il dépeint. Mais en revanche, là où je trouve le film extrêmement fort, c'est la façon qu'il a de mettre en scène le véritable propos de son film, qui n'est pas la guerre civile, qui est le journalisme, et qui est la façon qu'il a de filmer comme... C'est un débat qu'on aura par la suite avec Vince, on a déjà eu l'occasion d'en discuter en amont de ce débat, mais comme de véritables... Moi, je trouve que c'est des véritables figures héroïques, en fait, ces journalistes, et j'aime beaucoup la façon qu'il a de mettre en scène la nécessité absolue, dans un contexte extrême au possible, de créer de l'image. Et alors même que c'est un métier qui est extrêmement menacé aujourd'hui, j'aime beaucoup la façon qu'il a de dire « on a besoin de ces journalistes », on en a besoin, on a besoin de créer de l'image, même quand le contexte est dans la plus horrible, enfin, et quand bien même le contexte est abominable. Ce qui fait que je trouve que le film dégage beaucoup de classe et est vraiment clinquant sur sa représentation du journalisme. En revanche, ce qu'il me raconte sur les États-Unis, je trouve ça d'une pauvreté, mais absolue.
Alors effectivement, on a un contexte politique voilà, de guerre civile qui est quand même très peu détaillé. Bon, on a quelques éléments qui nous laissent imaginer le pourquoi du comment, hein, de cette situation. Mais pour être honnête, si c'est bien, bel et bien ça qu'il veut nous dire, je trouve ça extrêmement réducteur. Enfin, genre boubou, le fascisme est monté, le pays se divise. Bon, il me semble qu'aux États-Unis c'est un peu plus complexe que ça.
C'est littéralement ça. Hein, c'est vraiment ça.
Mais donc du coup, bon. Après, finalement, son sujet principal, c'est le journalisme. En temps de guerre, en temps de crise, etc. Pourquoi pas, admettons. Voilà, je suis un peu déçu qu'il n'aille pas plus loin sur le contexte politique, mais passons. Bon. Et du coup, sur le journalisme, moi, j'ai quand même le sentiment que le sujet est pas totalement exploité. Alors, on viendra voilà, sur ce débat entre nous deux sur la vision qu'il a du journalisme. Mais oui, je voulais te lancer là-dessus. Comment est-ce que t'as perçu voilà son propos sur le journalisme? Est-ce que tu l'as trouvé intéressant?
Alors, en fait, je trouve ça intéressant que Louis tout de suite tu dises ce thème en fait de la production d'images sur un flux continu dans des périodes de crise. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, c'est un principe démocratique, hein, le pluralisme des médias et le droit à l'information. Et c'est quand même traité dans le film, comme tu le dis, mais le souci que j'y vois personnellement, c'est que, à mon sens, ces journalistes, on en sait finalement très peu sur eux, et j'ai du mal à comprendre cette intention de caractériser en fait cette jeune fille comme passionnée par prendre des photos comme ça sans cesse, alors que quand même elle a vu des choses traumatisantes, elle était traumatisée à plusieurs reprises, et pour autant elle continue comme ça un peu comme une intelligence artificielle hein, quasiment, parce que à la fin du film j'ai l'impression que elle n'a plus vraiment de ressenti propre.
Mais ça je trouve ça intéressant par contre. Mais je vais y revenir.
C'est en soi intéressant, surtout que ça peut rappeler les films de Romero aussi hein, dans les thématiques de déshumanisation, etc. Mais le truc c'est que du coup j'ai du mal quand même à comprendre finalement la position politique des journalistes en question, ce qu'ils pensent de tout ça, et concrètement en fait la situation politique on la connaît même pas quoi. Enfin, c'est-à-dire que on nous dit il y a une crise, mais pour autant, ça reste quand même très très léger sur le plan politique. On ne sait pas trop d'où, on ne sait pas trop en fait les origines de cette guerre. Enfin, je sais pas. C'est vraiment particulier, je trouve. Et ce traitement du journalisme, en fait, mis à part les plans figés avec les photographies. Ben, d'un point de vue formel et la mise en scène, je trouve pas ça particulièrement non plus très passionnant. Enfin, je sais pas, mais forcément, à titre comparatif, Oliver Stone, cela je pense tout de suite à lui, dans la matière, il a fait des films tellement plus intéressants, avec des points de vue très différents. Parce que là, le truc aussi, c'est quand même un road movie. Et je pense que finalement Alex Garland se met peut-être des barrières parce que forcément on voit moins en fait les opposants de la guerre civile, les camps de la guerre civile, comme on reste toujours concentré sur leur point de vue. Donc je me demande si c'est pas aussi un obstacle au film.
Je pense que in fine ça reste quand même un potentiel dramatique d'une richesse impressionnante qui est pas exploité du tout, donc c'est dommage, mais bon après voilà, s'il voulait juste faire un film sur le journalisme, pourquoi pas hein. Moi ce que j'en retire, et c'est là où je pense qu'il y a un petit point de désaccord avec Louis, c'est que donc toi tu dis qu'il voit les journalistes comme des héros, responsables de l'information auprès d'un peuple dans un contexte de crise. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il porte un regard très critique et voire même méprisant sur ces journalistes qui en fait sont désinhibés de toute émotion et on voit le parcours hein, de cette jeune fille qui au début est traumatisée par ce qu'elle voit et qui au bout du compte ne sera plus choqué du tout, et enfin il y a sa collègue qui meurt et son idole en plus qui meurt devant ses yeux, et sa seule réaction c'est de la prendre en photo pendant qu'elle crève. Je trouve ça hyper intéressant hein, d'ailleurs hein, pour le coup hein, cette scène là mais oui, pour moi il montre les journalistes, ces photojournalistes voilà, de guerre etc, comme des personnes avides de contenu choc en fait, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à leur carrière et il faut trouver la photo la plus horrible qui va le plus faire parler, même tout l'objectif de leur quête pour interviewer le président avant qu'il se fasse zigouiller par le camp adverse, bah c'est en plus ils disent que le président il fait jamais d'interview et là ils veulent choper voilà ses derniers mots avant sa mort, bah c'est pas pour une volonté d'informer le peuple, ils s'en foutent, ils veulent juste faire les gros titres dans les journaux.
C'est peut-être à nuancer, tu vois, héros c'est pas forcément des héros, tu vois, comme on l'entend habituellement, mais
non mais je vois ce que tu veux dire, c'est des figures avec une responsabilité noble, on va dire, c'est ça que tu moi j'ai vraiment pas du tout l'impression qu'on a ça, quoi.
Enfin, le problème, c'est que ils finissent par. En fait, c'est peut-être eux qui épousent le plus le système dans l'histoire, parce que c'est quand même eux qui alimentent la. En fait, filmer cette violence, je vais pas dire que ça l'alimente, mais la filmer autant, enfin pas la filmer, mais plutôt la prendre en prise de vue comme ça autant, à mon sens, c'est ouais, si ça l'alimente quand même quelque part. Bah, c'est justement voilà ce, enfin cette petite fille qui finit par être habituée de ce qu'elle a vu.
Voilà, surtout qu'en plus, quand ils se retrouvent à un moment donné en pleine fusillade dans des immeubles désaffectés avec bah du coup je ne sais pas quel camp, mais bon bref, peu importe. En fait, là, concrètement, s'il y avait une pure volonté de faire un reportage et d'informer le peuple, mais quel intérêt de risquer sa peau là-dedans? Enfin, je veux dire, c'est juste une fusillade entre deux camps, qu'est-ce qu'il y a à informer là-dedans? Ils savent très bien qu'est-ce qui se passe, que ça se tire dessus de tous les côtés. Donc ils veulent juste être là pour prendre des photos horribles.
Non, parce qu'il y a tout autant de la noblesse dans le fait d'informer les gens que à la fois de livrer des clichés de guerre surprenants, tu vois. On regarde aujourd'hui c'est vraiment des figures très nobles, les gens par exemple qui ont ramené des images très chocs du Vietnam, tu vois, je pense à l'image hyper connue avec la gamine qui est brûlée sur cette route au Vietnam. Je veux dire, tu vois, il y a certes pas un besoin d'information comme un journal, mais pour moi ça reste quand même quelque chose de noble à la base, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire, mais il y a une différence entre se rendre sur le terrain où un hôpital, par exemple, a été bombardé et où des enfants sont blessés, et prendre des photos là-dessus, voilà, pour informer, mettre en garde là, sur les conséquences de la guerre, etc., et venir juste dans un immeuble désaffecté et photographier deux pélos trois tondus qui se tirent dessus à coups de mitraillette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose, hein.
Mais tu vois d'ailleurs ce que je trouve très très drôle, ouais, enfin c'est justement cette scène où je veux dire il y a le soldat qui cherche à battre de loin l'autre, et en fait on a presque l'impression que eux autour ils sont complètement déconnectés de ce qu'il se passe, quoi. Ils sont là en train d'observer, on sait pas trop ce qu'ils attendent.
Surtout qu'il y a, en plus de ça, il y a aussi un truc moi qui m'énerve complètement avec le film, c'est que je le trouve très souvent pertinent sur ce qu'il nous raconte, de tout ça quoi, mais sauf sur la réalité politique. Mais moi, il y a un truc qui m'énerve, et à chaque fois je souffle mais très fort dans la salle. C'est la façon qu'il a de rendre parfois certaines scènes cool en ajoutant de la musique un peu pop derrière, et ça juste, mais c'est horrible. Non. Ça m'énerve. Je veux dire la scène qui est quand même très graphique, ou qui est vraiment une vraie scène de tension, où il y a dans ce bâtiment désaffecté où il y a ces deux camps, on sait pas vraiment qui est qui, mais ils se tirent dessus, et à la fin ils arrivent à choper les trois militaires et ils se font abattre salement avec une musique de rock derrière. Ça, moi juste ça là, je souffle mais très fort sur mon fauteuil, quoi.
Ouais, après là, est-ce que c'est une volonté consciente d'Alex Garland de sensationnaliser ces images violentes au même titre que ce que font les journalistes dans son film, ou est-ce que c'est juste lui en mode gros débile qui veut juste faire des beaux plans et rendre ça cool? Je sais pas, je veux pas lui prêter de fausses intentions, mais oui, ça peut paraître problématique. Et pour en revenir juste sur le journalisme, pour le coup, moi, bon, même si on diverge sur ce point-là, je trouve ça très intéressant, voilà, qu'ils montrent les journalistes comme des figures totalement déshumanisées, qui n'ont plus rien à foutre, voilà, de leur métier d'informer, qui veulent juste choper des clichés affreux. Mais je pense que sur le journalisme, il passe à côté encore d'un potentiel dramatique intéressant, c'est-à-dire que on a quand même pu observer ces dernières années, notamment pendant le mandat de Donald Trump, qu'il y avait une recrudescence, voilà, de fake news, de médias partiaux, d'images et de photos auxquelles on peut faire dire tout et n'importe quoi, et même certaines images d'ailleurs qui sont générées par intelligence artificielle, hein, dont on ne voit pas forcément la différence. Et en fait, je trouve extrêmement dommage quand tu fais un film sur le journalisme en période en plus de guerre civile, quoi, où un pays est totalement fracturé, pourquoi tu ne vas pas questionner le rapport à l'image? Parce que c'est crucial, je trouve, dans un tel conflit, parce que déjà que dans l'Amérique actuelle, il y a une certaine défiance envers les médias, mais alors dans ce contexte-là, j'en parle même pas, enfin, et c'est jamais traité, et je trouve que c'est extrêmement dommage, et ça aurait été un complément intéressant à la vision qu'il apporte du journalisme, justement.
Ça m'a paru étrange aussi que ce soit jamais vraiment abordé, d'autant plus que l'introduction, personnellement, je l'interprétais déjà quand même comme ce président de la République qui façonne son image, qui cherche à se présenter de la façon la plus correcte possible finalement pour apaiser les tensions. Et je pensais quand même que justement cette fabrication de l'image qui nécessite de la réflexion et qui est assez trouble, que ce serait un vrai sujet du film, mais c'est vrai que pas tellement, voire quasiment pas, malheureusement.
En plus, ben là, on a les prochaines élections présidentielles américaines qui vont arriver dans quelques mois, avec Donald Trump qui tente de faire un comeback. Je trouve que c'est dommage d'avoir un film qui a un sujet politique extrêmement brûlant, hein, que ce soit juste sur le contexte de cette guerre civile ou même juste sur le journalisme, et de pas y aller frontalement, de pas se mouiller un peu plus, quoi. Enfin, en plus, voilà, on a dit Alex Garland, il est britannique. Donc qu'est-ce qu'il en a à faire de tirer
C'est vrai qu'en plus le film c'était sous-jacent, c'était clairement marketé comme une sorte de guerre civile qui a un espèce d'énorme fantasme entre les bidenistes et les trumpistes. Et c'est vrai que le film n'a rien à dire là-dessus, quoi. C'est pour ça que moi c'est un film qui me plaît, c'est un film que je trouve intéressant sur beaucoup de choses, mais qui passe tellement à côté de son sujet pour moi que bon, je suis d'accord et je te rejoins là-dessus.
Après, ça reste divertissant, hein. Je dirais, il y a des scènes d'action qui sont assez prenantes. Il y a une scène de tension avec le Jesse Plemons qui est assez génial, je trouve, et qui là pour le coup dit un peu plus du conflit que dans tout le reste du film. Donc c'est pas un mauvais film en soi d'ailleurs, hein. Je dis beaucoup de choses négatives depuis tout à l'heure, mais c'est pas un mauvais film en soi, mais je trouve que il est pas totalement abouti, quoi. Il va pas au bout des choses, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et j'étais très content par contre de revoir Kirsten Dunst, je trouve, dans un rôle qui lui va bien. Et bon, c'est une actrice formidable, mais toujours comme ça, dans son jeu, en tout cas, son jeu vraiment intéressant, même la jeune actrice, hein, franchement.
Kaylee Spani, je sais pas comment on prononce.
Elle joue très très bien. C'est vrai que par moment, j'avais un peu l'impression de voir Shailene Woodley en petite, mais non, solide. Sur les performances d'acteurs, en tout cas, solide. Sinon, c'est vrai que j'ai à peu près les mêmes réticences que toi, Vince. Globalement, j'ai pas forcément été très convaincu, mais c'est pas un mauvais film, j'ai pas passé un moment désagréable.
Louis, tu veux rajouter quelque chose pour terminer ou...
Non, du tout. Allez-y, faites-vous votre propre avis. Moi, je trouve que c'est quand même un film qui a beaucoup de choses très intéressantes.
Ouais, c'est à voir.
Et,
hein, ouais.
Clairement, c'est pas main, quoi.
Bon, eh bien, nous en avons fini avec les films en vedette de cette émission et on passe donc à la suite du programme où nous vous parlerons très brièvement, j'allais dire en 2 minutes, mais on verra, très brièvement d'un film pour vous le conseiller ou le déconseiller. Je vais commencer, moi, sur Borgo, le nouveau film de Stéphane de Moustier, après La fille au bracelet. Alors Borgo, bon, c'est un film qui se passe en Corse, dans la baie d'Ajaccio, où on suit donc le personnage d'une matone dans une prison, jouée par Afia Erzi, qui est mutée donc dans cette prison en Corse alors qu'elle était sur le continent avant avec son mari. Son mari qui est noir, précision très importante d'ailleurs au niveau du récit. Et ils vont avoir toutes sortes de difficultés à s'acclimater à cette nouvelle vie en Corse, et elle à son nouveau job dans cette prison qui est très très particulière, la prison de Borgo, voilà, qui est inspirée d'une vraie prison d'ailleurs, où les prisonniers ont en quelque sorte quartier libre, enfin en tout cas ils ont beaucoup beaucoup de liberté et ils sont très familiers avec les matons, et donc c'est un mode de vie très particulier, et on se retrouve avec un thriller où le point de départ est une affaire de meurtre à l'aéroport d'Ajaccio. Enfin, c'est une exécution publique, hein. Concrètement, c'est pas juste un meurtre anodin, un gangster qui est exécuté. Et en fait, on va petit à petit recouper les éléments et se rendre compte qu'il y a un lien entre ce meurtre-là et cette matone, qui est donc encore incroyablement interprétée par Afia Erzi, décidément. Ça, après le ravissement, elle confirme encore son talent dans un personnage très très ambigu. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce thriller que j'ai trouvé très bien ficelé, très bien mis en scène, qui témoigne, je trouve, assez fidèlement de la porosité qu'il peut y avoir entre le banditisme en Corse et la vie civile. Où en fait l'île est petite comme ils disent et tu peux croiser beaucoup de monde de façon hasardeuse et de discussion en discussion, de petits services rendus, etc. Ça peut mener à un engrenage qui vous dépasse et c'est ce que vit le personnage d'Afsia Herzi et franchement, jetez-vous dessus. C'est vraiment un des films français les plus intéressants, je trouve, de ce début d'année, et avec une super performance d'Afsia Herzi et Stéphane Desmoustier, donc qui confirme après La Fille au bracelet, qui se débrouille plutôt bien dans le polar, dans le thriller, donc super chouette. Voilà, j'en ai fini sur Borgo. Et maintenant, donc c'est Louis qui va vous expliquer brièvement pourquoi il vaut mieux s'épargner Drive Away Dolls d'Ethan Coen.
Drive Away Dolls, bon, alors parlons-en. Il faut savoir que je n'avais pas vu leur film précédent, Macbeth. Donc je n'avais pas vu le film des frères Coen depuis quelques...
C'est juste le film de Joel Coen d'ailleurs, Macbeth, tout seul.
Et là, c'est Ethan. Oh là là, c'est terrible. Bon, ils ont le même nom de famille. Bon, on me pardonnera. mais en revanche, j'avais été assez déçu par leur précédente production Netflix, La Ballade de Buster Scruggs, pour ne pas dire que je trouvais le film passablement oubliable et assez décevant. Et là, en revanche, Drive Away Dolls, pour le coup, que j'attendais pas mal parce que je trouvais que la bande-annonce avait un certain charme. Je suis un très gros fanat de Margaret Qualley. Je trouve que elle est clairement en train de monter, mais je trouve que c'est une comédienne vraiment de talent. Et ce qui fait que j'étais assez séduit par le projet. Puis clairement, qui était marketé comme une histoire purement Coen, quoi. Et c'est ce que le film est. Seulement, moi, je trouve que c'est un film qui est purement passé à la Javel, en fait. C'est un film, j'ai l'impression en permanence durant ce film de 1h24, déjà c'est très court, ça donne vraiment l'impression d'un petit film comme ça sorti de nulle part. J'ai constamment l'impression que c'est en fait le style des frères Coen passé en fait sous ChatGPT, quoi. J'ai constamment l'impression d'avoir tapé sur le clavier donne-moi une histoire Coen-like avec des punchlines qui envoient, sauf que le faut quand même préciser que c'est quand même un film qui bat des records, enfin des sommets absolus en termes de sexisme et en termes de représentation du féminin et notamment du féminin enfin lesbien. C'est quand même chaud. Après c'est complètement assumé, mais même en étant complètement assumé, je trouve ça quand même sacrément border de faire des représentations comme ça des lesbiennes en 2024 quand même. C'est quand même le male gaze est appuyé à un niveau, mais c'est cataclysmique, quoi. Et en fait c'est un film qui est cousu de fil blanc, c'est un film qui n'est jamais surprenant dans son déroulé, qui se croit terriblement subversif alors qu'il est juste gênant au possible, qui est lourd dans son écriture, qui reprend les pires transitions que s'autorisait encore George Lucas pour sa prélogie dans les années 2000, et qui décide de les rendre un petit peu fun. On va faire une transition entre deux scènes avec une roue de pneus et vous allez voir, ça va passer. Non, c'est de très très mauvais goût. On se croirait juste sur un vilain edit TikTok. Non, en fait c'est juste un film que je trouve effarant dans la façon qu'il a de caricaturer le propre style des Coen et qu'il a en fait de comme je vous disais, en fait une version passée sous ChatGPT et passée à la Javel, en fait. Ce qui fait que je trouve ça horriblement décevant et presque triste, en fait. C'est comme si on pouvait en fait réduire le style des Coen à juste un ton un petit peu décomplexé, des punchlines et des gueules. Et sauf que le style des Coen, s'ils ont fait autant de films, c'est clairement c'est pas juste une recette, c'est clairement c'est des gens qui ont une patte, c'est des gens qui ont vraiment quelque chose. Et là, en fait, arriver à un tel niveau de bassesse dans leur cinéma, je trouve que c'est clairement une fin de carrière sacrément embarrassante pour... Merde, c'est Ethan Coen ou Joel Coen, tu m'as dit tout à l'heure, c'est Ethan Coen. Bon, je trouve Drive Away Dolls extrêmement embarrassant, en plus d'être monstrueusement sexy, pas drôle et gênant. Vraiment, passez votre chemin. Et en plus, le film... et sexiste complètement, et le film en plus a été marketé mais n'importe comment, enfin vraiment il y a eu la promo était quasiment inexistante, c'est-à-dire que j'ai appris quasiment deux semaines avant que le film sortait, enfin c'est terrible, et je crois que le film est encore très peu distribué alors que il est sorti il me semble début avril, enfin c'est assez assez terrible. Passez votre chemin, Drive Away Dolls, c'est
particulièrement dispensable et très gênant, quoi.
Ouais, je crois que Will, toi aussi, tu avais vraiment pas aimé du tout, donc...
Autant j'adore leur cinéma à tous les deux, mais c'est peut-être mieux s'ils rebossent ensemble plutôt qu'en solo.
C'est officiel d'ailleurs qu'ils sont séparés ou pas, ou juste ils kiffent faire des petits trucs de leur côté?
Non, je pense que c'est une incartade dans leur carrière. Peut-être qu'ils se reformeront, je sais pas, j'ai rien vu de définitif en tout cas.
D'ailleurs, il y a un caméo très gênant, je trouve, de Miley Cyrus dans le film. C'est une des scènes un peu type Windows Movie Maker avec un filtre violet.
Eh bien, avant de conclure cette émission, on fait un petit retour dans le passé avec notre section « C'était quoi le cinéma ?» où l'on va s'intéresser à un film de patrimoine. Et donc ici, on va s'intéresser à un film hongkongais, puisque depuis le 10 avril, l'éditeur et distributeur Carlotta Film a ressorti au cinéma en version restaurée 4 films de Stanley Kwan, Amour déchu, La Nue, Center Stage et Rouge, que l'on va traiter plus en détail ici.
Les Mayas.
Avant de se lancer sur le film, je vais présenter brièvement Stanley Kwan. Donc c'est un cinéaste hongkongais qui a émergé au milieu des années 80, notamment avec Women, un sublime drame sur la fin d'un couple avec Chow Yun-fat et Cora Miao. Et c'est un réalisateur qui a souvent œuvré dans le genre du drame romantique, et en laissant la part belle aux personnages féminins, leurs luttes et leurs désirs. Et il n'est pas anodin de noter qu'il est ouvertement gay depuis le milieu des années 90, quand il a fait son coming out. Et c'est un des rares cinéastes chinois à avoir travaillé sur l'homosexualité au cinéma. Comme l'atteste d'ailleurs son film La Nue, que vous pouvez voir en salle actuellement. Rouge, donc ça parle de quoi ? On est à Hong Kong en 1934, et on va suivre Fleur, qui est une courtisane dans une maison close fréquentée par la haute société, et lorsqu'elle va rencontrer un séduisant client du nom de Chen Pang, le coup de foudre est immédiat, et le couple va souhaiter officialiser voilà leur union, sauf que les parents du jeune homme s'y opposent formellement, notamment à cause du fait que Fleur est une courtisane. Et donc les deux amants vont décider de se suicider ensemble, se promettant de se retrouver dans la mort. Et 50 ans plus tard, donc en 1987, année de sortie du film d'ailleurs, le fantôme de Fleur revient hanter Hong Kong à la recherche de son amour perdu, et elle sera aidée dans sa quête par un couple de journalistes. Et c'est un film sorti en 1987 qui a reçu le prix du meilleur film au HK Film Awards en 88, et on retrouve au casting dans les deux rôles principaux Anita Moy et Leslie Cheung, qui d'ailleurs tous deux sont chanteurs à la base et qui ont eu une carrière au cinéma ensuite. Et on retrouve également Alex Mann qui joue le journaliste qui va aider Fleur. Alors moi personnellement ça a été une découverte là au cinéma, donc c'était super chouette de le voir dans cette version restaurée. Will, toi je sais que tu l'as découvert aussi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, j'avais vu Center Stage de Stanley Kwan et c'est vrai que j'avais été un peu déçu. Donc sur les voilà, c'est pour le coup un autre des films de la rétrospective Center Stage. Et j'ai vraiment bien aimé Rouge. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que le film navigue en fait entre plusieurs registres. Bon, évidemment, on est sur du cinéma hongkongais, donc c'est pas si surprenant. Mais c'est à la fois un beau drame, mais en même temps, il y a des touches d'humour qui sont vraiment, vraiment bien amenées. Tout l'aspect un peu fantastique du récit aussi, j'ai vraiment apprécié. Et surtout, je trouve que Leslie Cheung, autant tu vois par exemple dans un film comme Adieu ma concubine, par moment j'avais l'impression qu'il était un peu effacé par son propre rôle, par ce qu'il jouait, même pas forcément à cause de son jeu, mais plus parce que c'était un rôle qui était tellement important pour lui que ça se ressentait à l'écran, que là, dans ce rôle à l'écran, je trouve son personnage vraiment assez passionnant, assez intéressant. On finit par se dire que c'est lui le véritable fantôme en fait de l'histoire. De là, ouais, je trouve que globalement, Stanley Kwan fait un film assez, enfin du moins avec beaucoup de paradoxes. En fait, d'ailleurs aussi globalement sur la narration, parce que le film n'est pas vraiment linéaire. Il l'est, mais pas totalement, on va dire.
On navigue entre deux temporalités. On navigue entre le Hong Kong de 1934 et le Hong Kong de 1987. Mais les deux parties, on va dire, à chaque temporalité, ce qu'on nous présente, c'est linéaire. C'est juste qu'on fait des, voilà, on fait des allers-retours entre les deux.
Après, sur la mise en scène en tant que telle, j'ai adoré aussi, hein, je trouve que c'est superbement réalisé. Bon, j'avais adoré la photographie et toute la lumière sur Center Stage aussi. Et j'ai vraiment apprécié aussi en fait toute cette longue introduction qui est purement musicale quasiment. Et en fait, c'est une introduction qui est très douce, mais très rapidement, là, il y a cette mélancolie. Et en fait, le personnage de Anita Mui, enfin, je saurais pas bien prononcer son nom, donc excusez-moi, mais qui se retire en fait de la scène, et donc les deux personnages qui s'éloignent, et bah c'est malheureusement en fait peut-être la dernière scène du film vraiment où ils s'échangent véritablement leurs sentiments respectifs, et enfin sans le faire à la fois quoi, mais justement c'est ça qui est beau, c'est qu'ils le font par le chant. Non, franchement j'ai vraiment bien aimé. Après, je pense qu'à un moment donné dans le film, j'étais peut-être un peu perdu. Je pourrais plus te dire exactement pourquoi, mais je pense que c'est plutôt sur l'histoire avec le poison en fait. Trouve en fait sa réponse à la fin du film, hein, puisqu'on apprend que il y a que le personnage de Anita Mui qui s'est empoisonné. C'est là où ouais, j'ai un peu plus compris là où le film voulait en venir, mais sinon. Ça m'a peut-être un peu fait penser, en fait, ce type de récit à L'être d'une inconnue, étrangement, de Max Ophüls. En fait, c'est un peu la même manière de déconstruire, si je peux dire, le mélodrame, sans forcément, ouais, le faire par une histoire très, très linéaire, du moins dans sa conclusion. Tu vois, avec cet effet un peu tragique aussi dans L'être d'une inconnue de Max Ophüls, avec un personnage qui meurt par sacrifice d'amour. Et cette issue un peu tragique du récit, du coup, je trouve qu'elle est vraiment bien ancrée justement par ces deux époques, les contrastes entre les deux époques. Même sur les choix des couleurs, il y a vraiment de belles choses, y compris sur tout l'aspect urbain du récit.
Oui, et c'est vrai que ce que je trouve habile avec ces allers-retours entre les deux époques, c'est que au tout départ, en fait, on commence en 1934 et on va suivre un petit peu, voilà, la naissance de l'amour entre Fleur et Chen Peng. Et puis, au bout de 20 minutes, voilà, on est transporté assez brusquement, d'ailleurs, hein, dans le Hong Kong moderne des années 80. Où d'ailleurs la première apparition en tant que fantôme de Fleur est absolument sublime, je trouve. Et ce que je trouve habile, c'est que en fait au départ cette relation dans son début, je la trouve pas encore totalement incarnée. Enfin, je ressens une attirance entre les deux, un flirt, etc. Mais la vraie relation, leur amour, on va dire, je le ressens pas encore totalement incarné. Mais comme après on bascule vers une autre époque, on a une Fleur qui, elle, par contre, est éperdument amoureuse et désespérée de ne pas avoir retrouvé voilà son amour dans la mort et qu'il recherche son corps après toutes ces années, c'est très émouvant. Et en fait, c'est là que du coup, cette relation qui pour moi n'était pas encore totalement incarnée commence à l'être, alors que Leslie Cheung n'est pas à l'écran. Et du coup, quand on revient au Hong Kong des années 30, pour suivre un peu plus le développement là, de leur relation, bah là, du coup, ça y est, en fait, j'y crois totalement. Et je trouve que c'est très habile narrativement, alors que ça aurait pu être fait de manière très didactique au tout début, où on passe peut-être 40 minutes sur le Hong Kong des années 30 avant pour bien poser les bases de la relation et pour ensuite arriver au Hong Kong des années 80. Donc je trouve qu'on n'est pas totalement pris par la main de cette façon, et c'est assez bienvenu. Et ce qui m'a étonné également, c'est que le personnage donc, du journaliste qui va aider Fleur voilà, pour retrouver son amour, il est joué par Alex Mann. Et Alex Mann, pour peu que vous ayez vu quelques films hongkongais, c'est un acteur qui d'habitude a un peu des rôles pétaradants. Je pense à Tragic Hero, à Bastard Swordsman, ou Devil Hunters, etc. Et là, en fait, il a un personnage finalement un peu drôle par endroit, mais vraiment profondément gentil, tendre. Et ça m'a fait très très bizarre de le voir dans ce rôle-là, et je le trouve vraiment vraiment super. Et Anita Moy, en plus d'être une excellente chanteuse, c'est une très bonne actrice aussi. Et d'ailleurs, en y repensant, ce film est assez symboliquement fort parce que rétrospectivement, en fait, Leslie Cheung et Anita Moy sont tous les deux décédés prématurément en 2003, la même année à quelques mois d'intervalle. Leslie Cheung, lui, est mort d'un suicide en avril et à 46 ans. Et Anita Moy est morte en décembre de la même année des suites d'un cancer à 40 ans. Donc c'est absolument tragique. Et je trouve que, c'est d'autant plus poétique de voir ce film comme ça après leur mort, où ils sont tous les deux finalement des fantômes. Ça donne un sentiment particulier, je trouve une couche de lecture en plus au film. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, je sais pas si t'as si t'as aimé ça aussi, Will, mais au niveau des allers-retours entre le passé et le présent, on a également un espèce de regard nostalgique sur l'évolution de Hong Kong, parce que forcément, Fleur, elle débarque dans ce Hong Kong des années 80 qui est moderne, il y a des néons partout, et elle reconnaît plus rien. D'ailleurs, elle s'étonne avec amusement que sa maison close soit devenue une maternelle. Donc c'est quand même assez cocasse. Et on a aussi un regard sur l'évolution du couple non marié. C'est-à-dire que dans les années 30, voilà, les deux, ils étaient éperdument amoureux, et comme ils pouvaient pas se marier, ils se sont dit tant pis, si on peut pas vivre ensemble, ça vaut plus le coup de vivre, donc ils se suicident. Et on a donc ce couple donc d'Alex Mann et j'ai oublié le nom de, mais bref, ce couple-là qui est mis en opposition, où les deux se rendent compte d'ailleurs que ils seraient pas du tout prêts, même s'ils s'aiment, à se suicider l'un pour l'autre. C'est Emily Chu, l'actrice, pardon. Et en fait, ils sont bien installés, voilà, dans leur confort de vie moderne, etc. Et en fait, ils sont totalement en décalage avec l'aspect romanesque et tragique de la relation de Fleur et Chen Peng, quoi.
J'ai remarqué aussi, un aspect du film que je trouve assez peu souligné, et finalement, ça finit quand même par en ressortir de façon drôle, mais un peu cocasse. En fait, c'est le rapport entre les hommes et les femmes, en fait, dans les deux temporalités. Et en fait, dans la temporalité la plus moderne, donc, on a presque l'impression que l'homme s'efface vraiment dans ses relations, en fait, avec avec les femmes. Forcément, ça passe par le par l'autre personnage masculin, mais il y a cet aspect-là du récit où la femme finit par prendre d'elle-même son sort entre ses mains et n'a plus besoin de l'approbation de l'homme, contrairement justement à toute la scène introductive quand même où voilà, on a une réunion entre entre mecs entre guillemets et où ça discute sur les femmes. Et j'ai bien aimé en fait juste cette vision aussi du désir qui est à la fois tourné vers la femme et vers l'homme en fait. C'est voilà, c'est une histoire, parce que le film, il me semble que le titre, ça correspond à l'objet du film qui est donné, il me semble que c'est la valise, hein, c'est ça, hein, qui est donné entre les deux personnages, si je me trompe pas, un truc comme ça. Mais en tout cas, cette caractérisation du couple, et pas seulement d'un seul personnage, parce que c'est vrai que, en début de film, je me suis dit, je m'étais dit qu'on allait suivre quand même, globalement, le point de vue de Leslie Cheung, et c'est pas du tout le cas, et c'est tant mieux, parce que ça rend le film beaucoup plus intéressant, je trouve.
Ouais, et aussi, je trouve un truc hyper intéressant, c'est le décor de la scène finale. Alors, c'est-à-dire qu'on arrive au moment, voilà, au pinacle du film où enfin Fleur va retrouver Chen Pang. Bon, je vous dévoile pas dans quelles conditions exactement ils se retrouvent, etc. Mais le décor, voilà, de cette rencontre, c'est un tournage d'un film de chevalerie, donc un wuxiapian. Et alors, petite parenthèse anecdote, mais celui qui joue le réalisateur de ce film, c'est Lau Kar-wing, le frère de Liu Xiaoliang. Et l'actrice qu'on voit sauter partout dans les airs, c'est Cara Hoy, qui a joué dans énormément de films de Liu Xiaoliang également. Donc petit clin d'œil sympa au cinéma d'Hong Kong. Mais ce que je trouve intéressant, voilà, dans le choix de ce décor-là, c'est que c'est un décor, en plus, comme c'est un décor de cinéma, et précisément de ce genre-là, en fait, c'est un terrain propice à mêler à la fois le fantastique et le réel. Et donc, cette rencontre entre Fleur, qui est un fantôme, et Chen Pang, qui ne l'est pas. Et donc, je trouve que c'est une mise en abîme particulièrement intéressante. Et il y a ce plan que je trouve sublime où Fleur s'avance vers Chen Pang et on voit dans l'arrière-plan, derrière une fenêtre, ben l'actrice du film ben, virevolter dans les airs comme si elle flottait, et ça donne encore plus, ben là, cette impression d'apparition fantomatique, quoi.
En fait, sur le coup, ça m'a un peu rappelé du théâtre, c'est-à-dire du théâtre qui gagne un soupçon de fantaisie et quand même, en fait, qui évoque une mélancolie passée, mais tu vois, avec cette forme de matérialité qui fait que, même si voilà, ça paraît artificiel, il y a une forme d'authenticité qui s'en dégage entre ces personnages, quoi. Et non, c'est vrai que c'est vraiment une très très belle fin. J'ai adoré cette fin. Et ouais. Et d'ailleurs, le vieillissement de Leslie Cheung est très bon, je trouve. Enfin, en tout cas, bon, ça peut faire un peu sourire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop tendance à le voir comme ça, mais.
Et d'ailleurs, donc tout à l'heure, j'ai parlé de Women, le premier film de Stanley Kwan qui est assez remarquable, hein, je vous le conseille. Mais petit à petit, donc avec ce film et ensuite Amour déchu, qu'il a tourné, donc son deuxième long métrage qui est visible dans le cadre de cette rétrospective, avec un jeune Tony Leung, hein, et Cho Yun-fat aussi, avant le Syndicat du crime, donc avant la starification. Qui est un film étonnant, et il a commencé à avoir cette renommée un peu critique, et c'est vraiment avec Rouge qu'il a commencé à exploser. Bon, en plus, voilà, il a eu le prix du meilleur film au HK Film Awards, je trouve que c'est dans Rouge qu'on observe déjà son style visuel s'affirmer, avec des plans extrêmement bien composés, des placements de personnages dans le cadre qui sont très particuliers. On a souvent, voilà, que ce soit Fleur toute seule ou juste le couple, qui sont positionnés vers le, en bas à droite du cadre, avec tout un espace soit vide, soit rempli par des éléments du décor, mais en tout cas des compositions qui ne sont pas traditionnelles, qui semblent un peu désaxées. Et je trouve, enfin, et on retrouve beaucoup ce type de composition dans Center Stage, qui va tourner, je crois, de trois ou quatre ans plus tard, et qui est Center Stage, par ailleurs, que j'ai, donc pareil, j'ai pas mal de réserves, où j'ai été un petit peu déçu comme toi, Will, mais par contre, formellement, c'est assez assez intéressant. Il y a beaucoup d'expérimentation visuelle, mais donc voilà, je l'ai évoqué aussi brièvement, mais il y a La Nue, que vous pouvez voir dans cette rétro, qui est un film donc sur une romance homosexuelle entre deux hommes, qui a des scènes d'ailleurs de nudité assez frontales, hein, ce qui est pas anodin, bah déjà dans le cinéma tout court, mais encore moins dans le cinéma chinois, pour des raisons évidentes. Et c'est un film en plus post-rétrocession qui est sorti en 2001 et qui aborde quand même de manière certes contextuelle, mais qui est quand même abordé frontalement, le massacre de Tiananmen. Donc c'est un film quand même assez étonnant. Je me demande, j'ai pas trop d'informations à ce sujet, s'il a pas eu des soucis au niveau de la censure ou de sa sortie, je sais pas, peut-être qu'il est sorti qu'à Hong Kong du coup et pas en Chine, j'en sais rien. Mais profitez-en, voilà, de cette rétro, si ça passe près de chez vous au cinéma, allez voir ces films, parce qu'ils sont tous formellement assez remarquables. Et au pire, bah après il y a un coffret Blu-ray qui va sûrement arriver chez Carlotta. Mais Rouge et Center Stage, voilà, c'était ces deux les plus connus, on va dire, et donc je me suis dirigé pour cette émission vers Rouge, parce que c'était le film que j'ai préféré des deux, et puis en plus, ben, en plus d'être un sublime drame romantique, c'est un film de fantôme chinois, et moi, c'est ma cam. Donc, voilà, je sais pas si Will, tu veux rajouter quelque chose, et même toi, Louis, qui n'a pas encore vu le film.
Ouais, franchement, vous m'avez bien chauffé. Moi, je pensais uniquement qu'on avait le côté, qu'on restait sur une romance, et le côté virevolté entre deux époques me chauffe bien. Et pour le coup, avant la rétrospective de Carlotta, je connaissais absolument pas le nom de ce cinéaste, donc vous me donnez d'autant plus envie. Et puis en plus de ça, je trouve que Leslie Cheung est un acteur absolument sublime. Donc vous me chauffez bien. Et je crois que d'ailleurs, je crois que je préfère, enfin à vous deux, Adieu ma concubine. Pour moi, c'est un pentagruélique chef-d'œuvre. Enfin, je suis fou de ce film. Et pour moi, c'est son plus grand rôle de loin. Et ça me donne d'autant plus envie de découvrir Rouge et en général l'œuvre de Stanley Kwan.
Ah bah, ça pourrait te plaire. Hein. Je pense si t'aimes autant Adieu ma concubine. Personnellement, je reconnais que c'est pas. Enfin, j'aime bien Adieu ma concubine. C'est vrai que je l'aime pas autant que beaucoup, mais je peux totalement comprendre.
Ouais, je l'ai. C'est vraiment un très très bon film, hein, Adieu ma concubine, mais j'ai quelques petites réserves dessus. Rien de bien méchant, mais et puis en plus, c'est vrai qu'il est ressorti récemment dans une sublime version restaurée. Mais
puis, je peux vous dire que j'ai fait il est ressorti en août et j'ai fait de la propagande auprès de ma classe. En école de ciné là pour qu'ils y aillent, parce que il est passé là il y a un mois en UGC culte. Généralement les belles remasterisations 4K elles arrivent en UGC culte 6-7 mois après, et j'ai fait de la bonne propagande auprès de ma classe et beaucoup de gens y sont allés et plein de gens ont trouvé ça fou, quoi, d'autres chiants, mais du coup j'étais content, quoi.
Et il ressort en Blu-ray là je crois en mai ou en juin, je sais plus du coup. Eh bien écoutez, c'est la fin de cet épisode de C'est quoi l'actu pour le mois d'avril. Je remercie mes camarades pour leur participation.
Merci à toi.
Merci à toi également.
Et j'espère pour vous, chers auditeurs, que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain et en attendant, bah, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site c'estquoilecinema.fr avec nos articles. Mais n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux ou en parler autour de vous. Salut et à bientôt.
Dommage que vous nous quittiez alors que ça commençait à devenir passionnant.
Oui,